porter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Waouh, par quoi commencer ? Par quel bout prendre le paysage politique français ? J'avoue que depuis quelques jours, je rédige, je reprends mes propos, je lis beaucoup d'articles de presse, mais comme c'est dur la politique ! Parler aussi de l'Europe ? De ses ambitions peu démocratiques ? Et la prééminence du droit européen sur le droit national, avec pour conséquence le non-respect des peuples européens. Finalement, allez, je vais commencer. C'est décidé, je vais vous parler, avec peut-être un peu d'humour, je ne sais pas si on peut y arriver, du renouveau démocratique. Car, ne l'oublions pas, nous avons une ministre déléguée au renouveau démocratique, Prisca Thévenot, et porte-parole du gouvernement. Suite au changement ministériel de Macron et d'Attal, on peut le dire, le deuxième quinquennat de Macron se fera avec un gouvernement des plus resserrés de l'histoire de la Ve République. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est même l'Élysée. Bon, moi je dis quand même, il y a d'énormes manques, des ministères oubliés et des ministres bien nommés et qui en ont même deux. Alors, mon dilemme, une fois de plus, par quoi vais-je commencer cette chronique ? Par les ministres et leurs ministères et tous leurs problèmes ? Car il y a du rififi dans l'air ? Ou par le renouveau démocratique ? Ou pas ? Je commence par quoi ? Allez, le renouveau démocratique ! C'est ça moins triste.
Ça existe ?
Oui,
ah bon, ah bah...
le renouveau démocratique !
Ah, par contre, juste plaisanterie. Prisca Thévenot, son nom de jeune fille, attention, accrochez-vous bien, elle s'appelle Prisca Balasubramanem.
Ah oui, 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 eh ben oui, c'est bien une femme, et d'autant plus avec des origines étrangères. Ça sonne bien. Bon, en tous les cas, Prisca Thévenot est bien au renouveau démocratique, et ça existe ou pas ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par le renouveau démocratique ? Quel est son but d'ailleurs, hein ? Serait-ce alors la bonne idée de redonner la confiance du public dans nos institutions ? Pour s'adapter à quoi ? Aux défis de la mondialisation et des changements sociaux ? Et voilà une idée qu'elle est bonne. Redonner un peu d'élan et de confiance en la société, en mettant en place de nouveaux projets de loi pour une révision constitutionnelle et pour moderniser nos institutions. Bon, ça c'est bien dans le discours. Prévoir peut-être une réforme électorale. Alors, on n'oublie pas d'améliorer SVP, la représentativité, l'équité et la responsabilité de tous nos députés. Envisager des changements dans les méthodes de vote, les limites des mandats ou d'autres aspects du processus électoral, bah pourquoi pas ? Encourager une participation plus active des citoyens dans le processus politique, que ce soit par le biais des consultations publiques, de référendums ou d'autres mécanismes permettant enfin aux citoyens de contribuer aux décisions politiques. Car du renouveau démocratique, nous en aurions bien besoin. Donc tout ça est une très bonne idée. On peut toujours rêver. Perdu d'avance, cher monsieur Macron. Démagova. Et pourtant, j'ai un scoop, chers auditeurs, chères auditrices. Oui, car parallèlement, bien sûr, le 28 décembre 2020, 500 personnes environ ont été tirées au sort, constituant de fait la plus grande assemblée citoyenne jamais tirée au sort sur l'ensemble de la France pour un projet citoyen. Oui. Il existe ce projet citoyen. C'était, figurez-vous, de créer quoi ? Le GOUV. Gouvernement à but non lucratif. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Alors, de quoi s'agit-il ? D'un contre-gouvernement citoyen et transpartisan. Issu, alors je Ça, bien sûr, on ne le sait pas et on n'en parle pas trop, mais issu des Gilets jaunes et d'autres mouvements sociaux, collectifs. On y retrouve, entre autres, Étienne Chouard. Bon, les noms ne reviennent pas comme ça, mais voilà. Alors, figurez-vous qu'ils ont su, quand même, montrer qu'ils étaient capables et qu'ils avaient cette possibilité de proposer des solutions en phase avec les attentes des Français. Eh bien, figurez-vous qu'ils l'ont fait quand même. Donc, moi, je vous incite à aller voir ce site et à le consulter, aller voir leurs propositions, parce que finalement, c'est très intéressant et c'est crédible. Sur certains points, j'ai pris du temps pour le regarder. Alors, legouv.fr. Voilà, donc allez voir, ça donne des idées, hein. Et surtout, ça nous incite à ne pas baisser les bras trop vite. Et les grands médias n'en ont pas du tout parlé. Des fois que les citoyens auraient des bonnes idées, alors oui. Bon. Nous en sommes bien loin, hein, de ce qu'ils proposent, mais allez-y et voilà. Bon, on préfère nous faire croire que nous sommes des incompétents, hein, dans les affaires du pays et que ça doit être sans doute mieux géré par des sacrés filous d'experts. Sauf, chers citoyens, si l'on bouge. Alors, quand même, il y a eu des référendums. Et puis des consultations citoyennes, nationales et même locales, regardez, dernière en date à Paris, hein, pour les stationnements payants dans notre capitale. Alors, je vais revenir sur les référendums. Ben, écoutez, en 2000 et 2005, il n'y en a pas eu, hein, depuis. Alors, en 24 septembre 2000, c'était pour le quinquennat. Quand même, 73,21% de votants, ce qui est pas mal. Un oui franc et massif sous Jacques Chirac avec le gouvernement Jospin. Et puis, le dernier, hein, donc le 29 mai 2005, je pense que ça nous rappelle vraiment quelque chose de bien antidémocratique, ben, la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, avec 54% de votants, pour un non franc et massif, sous Jacques Chirac, avec le gouvernement Raffarin. Bon, j'aime bien le rappeler, alors oui, au renouveau démocratique, mais un vrai, hein, excusez-moi, parce que là, avec les deux derniers référendums, bon, le premier en 2000, oui, mais en 2005, on est d'accord, hein. Comme pour les consultations d'ailleurs, hein, et même les référendums locaux, donc comme je vous parlais, celui qui a été un gros flop, enfin, moi je trouve pas tant que ça, mais quand même, on va dire que les Parisiens n'ont pas répondu présent, donc pour leur avis sur le stationnement payant à Paris qui dépasse largement l'honnêteté. Hein. Alors, renforcer la participation des citoyens et répondre de manière plus directe aux besoins locaux, ça c'est très bien. Et cela a été issu d'ailleurs du programme Macron en 2017, ce qui aurait pu être très attirant et qui a sans doute été attirant pour certains. Bon, grand débat et convention citoyenne, mais franchement, tout cela manque d'honnêteté. Monsieur Macron. Rappelons quand même que la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ses modes de révision par l'article 89. Et on en a entendu reparler. Je vous lis l'article, car finalement ma chronique était bien là pour parler de notre Constitution et de ses articles. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement, convoqué alors en congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Ah bon ? Alors, vive le président, vive la République, vive le roi. Et nous voilà à nouveau coincés par les propres articles de notre Constitution, il me semble. Et si le général de Gaulle a eu recours à l'article 11 de la Constitution de 1958 pour la réviser, l'article 11 autorise en effet le président de la République à soumettre à référendum un texte sur l'organisation des pouvoirs publics, la révision constitutionnelle instituant l'élection du président de la République au suffrage universel, qui a été adopté par référendum. Et pourtant, on en a entendu parler à nouveau de l'article 11, car le recours à l'article 11 pour réviser la Constitution est controversé, mais pas exclu. Allez, avant de parler de nos ministres et ministères, je vais vous laisser avec une petite chanson que j'avais déjà donc passée de Gauvin Serre, Monsieur le Président. Allez, on écoute les paroles du début à la fin.
Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue, quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus. Monsieur le Président, seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir. Monsieur le Président, je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère, quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand? Monsieur le Président, si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le Président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus, quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le Président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux, il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le Président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des Lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le Président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le Président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le Président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armée d'une feuille à quatre, alors à une prochaine.
Bien, merci Gauvin Serre. Bien, parlons de tous les derniers problèmes français. Mais à nouveau, commencez par quoi? La santé, l'éducation, l'agriculture, l'immigration? Les nouveaux ministres, au ministère élargi, ou ceux qui n'ont pas encore de ministre, comme le logement, la ville, les transports, la biodiversité, la mer, bon, ça c'est moins grave. Ah bon? On a l'impression. Alors, je vais choisir, pour commencer, Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail et ministre de la Santé et des Solidarités. Car c'est bien connu, le travail c'est la santé, alors autant les unir pour réduire les dépenses publiques de la santé. Car oui, les inégalités sociales de santé s'aggravent dans notre pays. Les mesures qui arrivent pénaliseront davantage celles et ceux qui ont le moins. Les étudiants, les précaires, les retraités à faible revenu. En freinant l'accès aux soins, ils laisseront la maladie s'aggraver. Elle confirme la volonté gouvernementale de changer les principes de la protection sociale en France. Elle en oublie la devise de la sécurité sociale, où chacun cotise selon ses revenus et reçoit selon ses besoins. Pour aller vers quoi? Vers quoi, Madame Vautrin? Une société de chacun pour soi, faisant fi de la solidarité, indissociablement liée à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. La devise quand même de notre République, il me semble. Comme ce message, tiré de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, dont fait partie l'hôpital de Moissac. Hein. Cet autoritarisme entraîne la casse sociale, appauvrissant les Français les plus démunis et en plus en les culpabilisant. Et pendant ce temps, les services continuent à fermer. Pour ce qui est de l'AME, l'aide médicale d'État, ils n'abandonnent pas l'idée d'une réforme de ce dispositif pour le réduire ou le supprimer. Mais nous resterons vigilants. Parlons alors peut-être de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, de jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques, Madame Amélie Oudéa-Castéra. Deux ministères pour une ancienne championne de tennis. Et oui, il va falloir jouer et jongler avec de sacrés chiffres qui pourront une fois de plus mettre la France en colère, madame. Je rappelle que le fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat, catholique essentiellement, ça représente, hein, j'ai été voir, 96% des établissements sont tous cathos, repose sur trois financeurs, l'État, les collectivités locales et les familles. Pour autant, il n'existe aucune donnée permettant d'identifier le montant exact d'argent public qui touche le privé. Alors la dotation à l'enseignement privé pour 2024 est de 9 milliards d'euros quand même. Chiffre donné par Fanny Marlier dans Alternatives économiques. Le budget de l'éducation nationale et de la jeunesse représente, quand même il en reste, 59 milliards d'euros. Priorité donnée à l'école par le président de la République. Grâce à cette hausse inédite de ses moyens, le ministère porte l'ambition de bâtir une école de la réussite de tous les élèves qui réduit les inégalités et prépare l'avenir de notre pays. Oups, monsieur Macron, permettez-moi de vous dire que ça commence mal. Mais grâce au réarmement civique de la France, chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Parole du président, qui a rappelé la mise en place de donc une heure d'instruction civique par semaine dès la cinquième, donc en collège, à partir de la rentrée 2024, donc à partir de ce mois de janvier. Appelé enseignement moral et civique, EMC. Donc maintenant, dans les plannings, vous aurez une heure de MC. Et c'est dans les textes officiels. Alors, me direz-vous, l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Ça, c'est dans le code de l'éducation. Belle perspective, certes, mais je voudrais pas vous casser le moral parce que franchement, c'est quand même mal parti. Alors, quittons l'éducation nationale et passons au sujet qui fâche ces dernières semaines, l'agriculture. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont du boulot sur la planche. On a bien compris que la PAC européenne était à repenser. Les agriculteurs ont raison, on marche sur la tête. Et ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui se mettent aussi en difficulté en étant d'accord avec ce super syndicat. La FNSEA. Donc, ce sont les consommateurs, l'environnement, la biodiversité et les producteurs eux-mêmes qui en souffrent de cette PAC. Or, plutôt que de tirer parti de la crise actuelle en réformant profondément ce modèle agricole et grâce à l'agroécologie, le gouvernement cherche d'autres solutions auprès de ceux qui nous maintiennent dans ce cycle mortifère en écoutant essentiellement, je le rappelle, la FNSEA, qui est loin de représenter quand même tout le monde agricole, mais plutôt celui de l'agro-business. Il faut soutenir les paysans, ceux qui défendent un modèle agricole digne et durable, en réorientant la PAC. Donc la PAC, c'est l'Europe, donc l'euro. Pour que 80% des aides n'aillent plus à 20% des plus grosses structures agroalimentaires. Les décideurs politiques continuent à soutenir cette agriculture productiviste sans prendre en compte le dérèglement climatique et l'impact des pesticides sur notre santé. Ils bafouent un peu plus le principe de précaution. Car c'est bien la protection de la santé et de la population qui doit rester au-dessus de tout. Celle des consommateurs, des producteurs, des voisins riverains, des écoles. Alors, je remercie pour le petit message de l'association Soutien aux victimes des pesticides, avec qui je suis en contact, de nous avoir fait suivre leur rapport et leur appel. L'avenir de l'agriculture ne peut se construire contre notre santé et notre environnement. Ils revendiquent que l'abandon du principe pollueur-payeur prive les collectivités des moyens nécessaires pour assurer le traitement de l'eau. Ce qui ne sera pas payé par les pollueurs devra l'être par qui ? Par les consommateurs. Quoi ? Une mise en cause du plan Ecophyto 2030. Alors là, grosse colère depuis mardi pour de ma part et je pense de toute la part des associations et des collectifs écolos. Alors, c'était d'abord Ecophyto 2, hein. Donc, parce que faut pas oublier que le plan Ecophyto a commencé en 2008. Il a été déjà révisé en 2015 pour aller jusqu'en 2030 pour l'utilisation des pesticides. Et là, nous arrivons à un Ecophyto 2 jusqu'en 2030, pardon. Donc c'était 2025, celui de 2015, et 2030 pour celui de 2020. Ecophyto 2+, c'est celui qui arrive là, hein, et qui établit des objectifs de réduction de l'utilisation des pesticides dans les cultures françaises et dans les pays d'Europe. Hein, on l'a vu là, une mesure mise en place pour tenter de mettre fin à la grogne des agriculteurs. Et voici 150 millions sur la table et des mesures pour un coût total de 400 millions d'argent public pour aller dans le bon sens, dit la FNSEA. Mais non, ils se foutent de nous. Ils répondent juste à la colère des agricultrices et des agriculteurs. Gérer au plus vite la crise en ciblant quoi ? L'écologie. Comme le demande la FNSEA. Sans apporter de réponse, d'ailleurs, pour une juste rémunération des agriculteurs. Il n'a fait nulle mention des énormes marges de la grande distribution, de l'agroalimentaire dans son discours. Alors qu'entre fin 2021 et début 2023, le taux de marge des industries agroalimentaires est passé de 28% à 48%. Il nous rappelle que le Green Deal, alors disons en France le pacte vert, fait référence à une initiative de l'Union européenne visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Annoncé en décembre 2019. Ah oui, donc, excusez-moi, 2019, Ecophyto 2, hein. C'est les mêmes dates. Donc, monsieur Macron suit les deux dossiers, n'est-ce pas? Ce pacte visant à transformer l'économie européenne en une économie durable et respectueuse de l'environnement. Il a pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, la promotion de l'économie circulaire, la protection de la biodiversité et la promotion d'une agriculture durable. Il faut encourager l'innovation et cela ira vers de nouveaux emplois verts. Ah ah, Donc allez voir aussi sur le site, hein, Green Deal, Pacte Vert, vous aurez donc toutes les propositions et les aboutissants, sauf qu'aujourd'hui, tout ça est remis à l'eau. Hein, voilà. Donc, ces marges nourrissent le monde des actionnaires. En 2022, Danone, qui figure en tête des groupes agroalimentaires en France, a versé 1,2 milliard d'euros à ses actionnaires. Et encore plus en 2023. Les matières premières agricoles sont cotées en bourse comme n'importe quel produit financier. La financiarisation du marché des matières premières agricoles et alimentaires a considérablement aggravé les phénomènes de spéculation. Les marchés financiers viennent spéculer sur le dos de la faim dans le monde. C'est profondément immoral tout ça. La situation révolte l'élu vert européen Claude Gruffat. Il a fait d'ailleurs un excellent article sur le Green Deal. Allez voir, c'est aussi sur Internet. Donc, le Green Deal est le pacte vert, nous sommes en France, est considéré comme l'une des initiatives les plus ambitieuses au monde en matière de lutte contre le changement climatique et de promotion du développement durable. Et voilà ce que Macron et le gouvernement Attal ont fait. Eh oui, parce qu'après avoir réautorisé le glyphosate, Madame von der Leyen, mardi dernier, enterre définitivement le règlement européen sur les pesticides. Quelle belle Europe nous avons là! Et pour juste laisser retomber la colère en France, d'agriculteurs qui profiteront même pas, des moyens qui seront donnés, grâce à la FNSEA, à l'agro-business. Alors tout ça, pour moi, je trouve ça révoltant. Et dans ce mot, il y a le mot « révolte ». Alors un bon entendeur salue. On ne sait jamais, mais. Et moi je vous appelle, chers consommateurs, à boycotter ne serait-ce que 2-3 jours les grands distributeurs. Hein ? Je ne nomme pas pour pas avoir de soucis sur les ondes, mais je pense que ce serait intéressant. 3 jours et 4 jours sans aller acheter dans la grande distribution, tiens. Alors, une transition écologique, c'est aussi une transition sociale. Et ainsi, les enjeux climatiques doivent se penser à long terme, non pas, et pas à court terme. Hélas, comme le font aujourd'hui nos élus, c'est tout simplement pour leur réélection. Moi, je suis un peu dégoûtée de tout ça. Et je pense que beaucoup seront assez dégoûtés et n'iront même pas voter. Alors, encore moins pour les élections européennes en juin 2024. Et voilà ce que rapporte et ce que reporte donc les actions qui étaient quand même dans le bon sens par l'Europe et par la France et à cause de la France. Voilà. Et toutes ces actions étaient des questions essentielles pour le 21e siècle. C'est dire que la feuille de route de la Commission européenne est mal barrée. Bon, pour ma part, je demande encore en plus à ce qu'on élimine de ce nouveau gouvernement les ministres, tous les ministres, hein, parce qu'il y en a quand même plusieurs, moi pour l'instant j'en ai compté 4 ou 5, qui sont aux prises avec la justice et qui traînent leurs casseroles et leurs petits arrangements entre amis depuis plusieurs quinquennats et même septennats. Alors qu'ils arrêtent de nous faire la morale, les anti-gaspis qui finissent par coûter si cher à la France. Bon, c'est pas très optimiste tout ça, et c'est aussi encore avec beaucoup de colère, et j'espère que vous rejoignez ma colère. Allez, je vous laisse un livre, celui de Nicolas Legendre, journaliste correspondant en Bretagne du journal Le Monde. Nicolas Legendre est auteur de nombreux ouvrages, fils de paysan, il connaît bien le monde agricole breton, dont il décrit les rouages dans le livre « Silence dans les champs ». Des éditions Artaud, le livre est sorti en 2023. Donc, fruit d'une enquête très longue, au cours de laquelle le journaliste a recueilli plusieurs, voire jusqu'à 300 témoignages, il décrit les pressions et les intimidations aussi que reçoivent les agriculteurs. Voilà, qui sont les premières victimes de tout ça. Je vous mets aussi en lien un site. Alors là, c'est mon côté optimiste, hein. L'agroforesterie nécessaire plutôt que la bétonisation ou même de recouvrir les champs de panneaux voltaïques. Alors, je vous invite à aller consulter le site de la FNE, donc hein, France Nature Environnement, .asso.fr/actualité/agroforesterie-enjeux et perspectives face aux défis environnementaux actuels. Voilà, France Nature Environnement donc a fait un très bon article et se bat pour la protection de la nature et de l'environnement. Et il y a des possibilités d'emploi et de sauver aussi un peu la planète en remettant en place des forêts. Voilà, donc allez voir tout ça. J'ai peut-être été un peu longue là, dans cette chronique, mais c'est vrai que l'actualité était lourde aussi. Alors je vous dis à la semaine prochaine, et là j'essaierai de vous parler de l'Europe, et je le ferai sans doute sur deux chroniques. Un constat peu réjouissant, et nous avons pas mal étudié ça donc avec le groupe pour une constituante, et c'est avec grâce à certains membres de notre association que je vous parlerai plus précisément de l'Europe. Et j'en parlerai peut-être jusqu'aux élections d'ailleurs, en juin 2024. Donc je vous laisse avec une chanson du groupe Auvergnat Oiseau et qui a été reprise là sur les dernièrement sur les barrages des agriculteurs par les réseaux sociaux aussi donc et qui devient l'hymne symbole de cette crise agricole baptisé agriculteur. Voilà. Alors c'est dit dans les premières paroles, on ne redoute pas le labeur pour le pire pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs car nous sommes agriculteurs. Donc chanté par le groupe folk Oiseau, originaire de Clermont-Ferrand. Donc voilà, juste pour pas, je voulais aussi donc rappeler que ben agriculteur, c'est aussi un jingle pour une chronique qui est sur
une émission qui s'appelle Zoom. Voilà.
Voilà. Ben voilà, on se retrouve. Allez, je vous laisse avec cette chanson et je vous dis à la semaine prochaine.
Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons l'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Surtout ne te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles à côté du puits envolé. Avec le coup déjà levé, y aura Jim, notre vedette. On t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Agriculteur, 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 agriculteur.